Eh bien, suite à l'article paru dans les journaux en février concernant notre ami Jacques Côté, un personnage bien connu dans le monde des personnes handicapées visuelles à Québec, on vous rediffuse l'entrevue de fond qu'on avait fait avec lui en octobre dernier sur l'édition de La Puce d'octobre. Jacques qui va nous parler évidemment de la vente de Braille Gémico, mais qui va surtout nous parler de sa vision du Braille suite au projet de réforme de Braille abrégé qui est en cours actuellement. Alors, on écoute ça ensemble. Eh bien, nous apprenions la semaine dernière, notamment à la diffusion de notre club courriel et aussi dans le journal Le Soleil, qu'une entreprise de transcription braille bien connue à Québec, le Braille Gémico, a été vendue. Et j'ai le président de Braille Gémico, celui qui l'a tenu debout depuis de nombreuses années, Jacques Côté, un membre de notre communauté. Bonjour, Jacques.
Hey, salut, René.
Jacques, c'est une grosse nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fermeture de Gémico? Est-ce que c'est une suite? Et pourquoi on en arrive là?
D'abord, on en arrive là parce que après 32 ans d'existence, c'est le temps de faire en sorte que l'entreprise ait comme une nouvelle vie. Mm-hmm. Et surtout la chance d'avoir une nouvelle vie, parce qu'on s'entend qu'une entreprise de production braille, ça court pas les rues, c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour l'achat, et j'ai été chanceux d'avoir un compétiteur qui dont le nom de la compagnie s'appelle T-Base Communication, mm-hmm. et donc T-Base a une section de sa compagnie à Ottawa et une autre section dans l'État de New York, ce qui fait que avec toutes les nouvelles orientations que notre ami Trump veut donner aux États-Unis, ce qui s'appelle le Buy America, c'était rendu essentiel aussi que l'entreprise ait une identité américaine pour pouvoir continuer à bien fonctionner. Mm-hmm. Et, bon, merci la vie. La transaction s'est faite d'une façon extraordinaire. J'aurais peut-être même jamais pu rêver d'une transaction aussi avantageuse pour l'entreprise et pour moi.
Évidemment.
Donc, ça s'est fait le 1er août mm-hmm. 2019. Et on pense que c'est une deuxième vie, ou tout au moins, Braille Gémico va continuer à vivre dans le sang ontarien et américain. Par contre, on s'entend que Braille Gémico fonctionnait énormément. À peu près 95% de sa clientèle était américaine.
Okay.
Donc, c'est juste une suite un peu logique.
OK. Alors là, maintenant, ça fait toi, Jean Côté, ça fait longtemps que tu t'impliques au niveau du braille, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la transcription. Et on sait que le braille actuellement, on peut dire ça comme ça, que le braille était à la croisée des chemins. J'aimerais ça te demander, en tant qu'expert de braille, parce que je pense que c'est le mot, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du braille?
Tout d'abord, on touche un point très sensible. Le braille, il faut juste faire un petit recul. Le braille, lorsqu'on parle de braille à une personne qui a un problème visuel, plus ou moins grave, on identifie tout de suite, braille devient aveugle. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui accepte de s'identifier comme utilisateur de braille, parce qu'automatiquement, c'est d'avouer qu'on est rendu aveugle.
Mm.
C'est facile pour quelqu'un comme moi qui est aveugle depuis 60 ans maintenant, mais aveugle complet. Donc, il n'y a pas de discussion possible.
Non.
Alors, deuxièmement, le braille aurait dû, et je le dis bien, aurait dû avoir une promotion beaucoup plus grande que que celle que l'on a. Pourquoi? Parce que le braille est difficile à accepter. Alors, pour l'accepter, il faut avoir des repères et des pairs. Ce qui a manqué beaucoup depuis quelques années, plus on avance dans les années, moins il y a de personnes handicapées de vue utilisatrices de braille qui deviennent des modèles. Remarquons simplement l'école Jacques Ouellette à Montréal, il y a à peu près, je dirais, 15 ans, il y avait plusieurs enseignants aveugles qui faisaient aussi l'enseignement. Rappelons-nous simplement quelques noms. On avait notre ami Jacques Larose, Louiselle Dubé. On avait quand même des gens, par exemple, qui travaillaient à la production braille, Cécile Blais. Bon, il y en avait plusieurs autres, on pourra en faire une liste. Ces gens-là ont quitté l'enseignement et, malheureusement, n'ont pas été remplacés par d'autres personnes handicapées de la vue. Ce qui fait que, au point de vue de la promotion, il n'y a plus d'handicapés visuels. Et je sais, personnellement, que on n'est pas très, très bienvenus parce que nous, les personnes aveugles, on n'est pas reconnus comme étant des personnes capables. Remarquons simplement qui a fait partie de la liste des experts, à part notre ami Pierre Ferland.
Pierre Ferland, oui.
Qui est décédé maintenant, et notre ami
Yvan Bourdeau.
Bon, à part de ces deux-là, les autres sont des personnes voyantes. Et quand je parle de personnes voyantes, je parle aussi du comité, mais je parle aussi des gens qui les ont appuyés, c'est-à-dire des personnes au ministère de l'Éducation. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais été capable de savoir qui a supporté le braille depuis, je dirais, les 15 ou 20 dernières années. On ne sait pas qui a mis l'argent du ministère dans la promotion. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en 2008, il est arrivé au Québec un nouveau code braille. Et ce nouveau code braille-là, d'une part, je dois vous dire qu'il n'a jamais été évalué, ça fait 11 ans depuis déjà de 2008, il n'y a pas eu d'évaluation pour savoir est-ce que les aveugles ont eu un avantage, si oui, lequel, est-ce que les aveugles ont été bien formés par des utilisateurs de braille, ou ça a été des personnes voyantes qui ont fait leur possible, mais gardez, on s'entend bien que la personne voyante n'a pas à utiliser le braille, si ce n'est que de le lire avec ses yeux. Troisièmement, est-ce qu'on a évalué les performances de lecture des nouveaux lecteurs braille? Je ne pense pas, et je vous dis non. Ça n'a pas été fait. On est arrivé avec un nouveau code. Il y a eu des personnes qui se sont flattées le ventre, pour ne pas dire la bédaine, parce que ils arrivaient avec quelque chose de nouveau qui nous a complètement isolés. Au lieu de nous intégrer, on nous a isolés avec un code, surtout un code numérique, dont on est les seuls à utiliser, et donc, simplement, ça aurait été une occasion extraordinaire de... Il y a eu le UEB aux États-Unis. On aurait pu au moins aller chercher ce qui aurait pu nous convenir. On ne l'a pas fait. On a notre code et qui s'appelle le CBFU. Et le pire, c'est que ça s'appelle le CBFU québécois. Si on a... Donc, comment penser, être capable de s'intégrer lorsque déjà on se marginalise avec un code identique pour nous. Deuxièmement, ce code-là de Braille a été mis en place avec un objectif majeur, c'était de nous calquer sur la France et sur la francophonie, de manière à ce qu'on disait, on va pouvoir échanger des livres avec la francophonie, parce qu'on va avoir un code similaire. Donc, on prétendait qu'en France, on était pour faire un livre de mathématiques et que ce livre-là serait capable d'être lu par toute la francophonie, tandis qu'il faisait un livre en France, on aurait fait un livre d'histoire au Québec, on aurait fait un livre de géographie en Suisse, et ainsi de suite. Mm-hmm. Il y a zéro livre commun. Il n'y a pas de programme scolaire commun dans la francophonie. Donc, un livre qui est fait en France ne peut pas arriver ici dans nos écoles parce qu'il ne correspond pas à aucun programme. Donc,
là, on parle au niveau de l'éducation. Là.
On parle, ben oui, parce que c'est l'éducation qui a mis des sous là-dedans. On a mis, écoutez-moi bien là. On a investi et on investit toujours en termes de millions de dollars pour ce nouveau code-là, pour supporter, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a accepté le code, au niveau de l'éducation toujours, a fallu changer et réécrire tous les manuels utilisés au Québec parce qu'ils n'étaient pas faits avec le nouveau code. Et donc, on a engagé, ici, à la commission scolaire des premières seigneuries, je pense qu'ils sont rendus 6 transcripteurs braille annuels. Alors, imaginons simplement combien le salaire peut coûter et combien ça coûte d'installation et de production. C'est en termes de centaines de milliers de dollars par année pour faire des nouveaux livres. Et si vous voulez, je vous poserai une question. Combien y a-t-il d'élèves aveugles utilisateurs de braille dans le réseau scolaire au Québec? Combien est-ce qu'il y en a d'élèves aveugles, présentement, là, qui utilisent le braille? Et s'il y en a une certaine quantité, je crois qu'il y en a une quantité.
Ouais.
Donc, pourquoi on n'a jamais évalué est-ce que c'est utile? Est-ce que les jeunes utilisateurs de braille lisent bien le braille? Quel est leur rythme de lecture? Moi, je n'ai pas encore rencontré de personnes qui performent à un rythme qu'on a reconnu dans les lecteurs braille qui prenons simplement notre ami Jacques Larose, parce que je veux simplement penser à lui. Je veux penser à Nicole Trudeau. OK? Et je peux en nommer d'autres. Ces gens-là lisaient le braille d'une manière à arriver avec quelque chose comme à peu près 150 mots minute. Tandis qu'un voyant lit à peu près à 300-320 mots minute. C'est déjà la moitié d'un voyant, mais c'est déjà... Donc, moi, je vous dis, les aveugles d'aujourd'hui, d'après moi, dépassent rarement le 40 mots minute, et déjà, c'est bien. Ce qui veut dire que ça, c'est... je parle du nouveau code, je parle de l'avenir, je vais en parler un peu plus de l'avenir. Présentement, on fait, et avec certaines raisons, on a raison de faire la promotion de tout le matériel électronique. Tout à fait d'accord, le matériel électronique est utilisé de plus en plus par les personnes malvoyantes et aveugles, tout comme les voyants utilisent de plus en plus l'ordinateur. Par contre, il faut remarquer, chez les voyants, eux qui ont des tablettes, des téléphones intelligents, des ordinateurs intelligents, les ordinateurs portables, les voyants ont tout ça. Et malgré tout, sachez que lorsqu'ils vont en avion, lorsqu'ils vont en voyage, OK, ils s'apportent très souvent un livre papier. Deuxièmement, dans leur sac à main, les femmes, et dans les poches de veston, les hommes, ont encore des crayons. Pourquoi? Parce que c'est la base de la lecture et de l'écriture. Moi, je pense que les gens qui utilisent l'ordinateur, surtout pour le braille, ils ne l'utilisent très peu pour la plage tactile, mais ils l'utilisent beaucoup pour la synthèse vocale. Mm-hmm. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien pour une lecture de surface.
Mais évidemment, si on parle d'orthographe, là, c'est un autre terme.
Ah non, non, là, j'y arrive. Mm-hmm. Lorsqu'on arrive au niveau des apprentissages, mm-hmm. lorsqu'on arrive au niveau de la réflexion, lorsqu'on arrive au niveau du point d'être pointu dans notre lecture,
ouais.
OK, remarquons que la synthèse vocale, il peut nous arriver de presque s'endormir pendant que la synthèse continue. Mais c'est impossible d'être distrait lorsqu'on lit avec les doigts. Si on est distrait, les doigts arrêtent et on arrête de lire. Une autre chose, par exemple, au niveau mathématique, scientifique, présentement, il y a les élèves aveugles se privent beaucoup d'informations scientifiques parce que la synthèse vocale ne répond pas à leurs attentes, puis c'est tout à fait normal. Ils ont besoin de graphiques, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de dispositions, ils ont besoin de repères spatiaux, ce que la synthèse vocale ne donne pas. Et présentement, écoutez, ça fait quand même 60 ans que je suis dans le réseau, je suis un lecteur de braille, un enseignant de braille, un producteur de braille, et je pense que je connais un peu le milieu. Je n'ai pas vu dans les nouveaux arrivants des personnes qui ont performé. Et d'autant plus que ces personnes-là, les nouveaux aveugles, avec les nouveaux codes, s'éloignent de plus en plus de ce qu'on appelle l'accès aux sciences, ou tout au moins aux sciences qui demandent une réflexion, comme la psychologie, la philosophie, des choses qui demandent que lorsqu'on lit quelques mots, il faut arrêter parce que ces mots-là ont une importance tellement grande qu'il faut réfléchir. La synthèse vocale ne permet pas ça. On peut arrêter la synthèse vocale pour reprendre un mot, mais on va le faire une fois, deux fois, trois fois. Alors, on s'aperçoit, d'une part, que plus on avance, plus le braille s'éteint.
Donc, est-ce qu'on peut dire, et en conclusion, là, est-ce qu'on peut dire que tu dis que le braille s'éteint, et et pour toi, la solution, c'est quoi rapidement?
Malheureusement, la solution, il faudrait deux. La solution, je vous le dis, premièrement, c'est de se rapprocher de la mondialisation. Je ne comprends pas comment il se fait que l'on se soit marginalisé à ce point-là avec un code CBFU québécois qui nous a isolés de tout le braille anglophone et ailleurs.
Mm-hmm.
Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la promotion. On ne fait plus la promotion du braille lorsque quelqu'un dit « OK, je ne veux pas l'apprendre » ou « je l'utiliserai le moins possible », on les encourage à aller vers la synthèse vocale. Et pourquoi? Parce que malheureusement, très souvent, ceux qui font la promotion, ce sont des personnes voyantes qui sont capables de lire l'ordinateur ou l'écran d'ordinateur que l'élève aveugle, lui, écoute sur son sur la synthèse vocale. Donc, la personne voyante n'a jamais à apprendre le braille, ou s'ils l'apprennent, ils l'apprennent pas pour le lire, ils l'apprennent simplement pour essayer d'aider la personne aveugle, ce qu'ils réussissent mal. Donc, premièrement, il faut se coller sur la mondialisation. Deuxièmement, il faut en faire la promotion. Et troisièmement, il faut réintégrer des modèles. On a sorti les modèles complètement. Maintenant, ceux qui interviennent, c'est des personnes voyantes, c'est sûr. En Abitibi ou en Gaspésie, c'est plus facile d'aller avec sa voiture quand on voit, puis rendu là-bas, là, on parle de braille un peu. Mais regarde, sérieusement, là, il n'y a rien de fait, et je comprends pourquoi il n'y a rien de fait en termes d'évaluation, parce qu'on se doute du résultat.
Je peux me permettre, en terminant, Jacques, juste au niveau des modèles, quand même, on a, au niveau du RAC, on a quand même réussi à introduire, je pense, quelqu'un qui est une bonne utilisatrice de braille, qui, à mon avis, est une experte, c'est Lynn Robichaud.
Lynn Robichaud.
Qui est sur le CQCD actuellement.
Si tu veux bien, Lynn Robichaud, je suis 100% d'accord avec toi. Lynn Daboutette, je suis 100% d'accord. OK, ce sont des lectrices extraordinaires. Veux-tu regarder, malheureusement, leur âge?
Oui.
Parce que moi, je te parlais de jeunes tantôt.
Oui, au niveau de mes...
Je te parle des nouveaux étudiants.
Ouais.
Et si, en terminant, je ferai une proposition au RAC. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas, dans un de vos grands objectifs, d'en faire l'évaluation, de dire, on va aller évaluer comment les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, comment ils utilisent le braille, quel est leur rythme de lecture, quel est leur mode? Est-ce qu'ils sont capables de lire à deux mains? Puis quand je parle à deux mains, avec l'alternance des mains, comme le code le suggère, il me semble que ce serait peut-être au RAC d'aller en faire une évaluation et un jour d'arriver puis dire, je pense qu'on a mis le doigt dessus, ça nous prend des modèles et ça nous prend de la formation.
Hey Jean, merci beaucoup. Et bon, je pense qu'on peut se permettre, en tout cas moi je me le permets de te le dire, bonne retraite, profites-en, et merci beaucoup pour ce que tu nous as donné par rapport au braille, et je dirais aussi au niveau de l'enseignement, je dois vous dire que je t'ai eu comme professeur de français, et ça a été gagnant pour nous.
Un grand merci René, bonne chance tout le monde.
Merci.